Actualité,
culture,
éducation,
santé,
environnement.
Zoom, c'est l'interview de la rédaction.
Quand on nous raconte une histoire, c'est un peu l'enfant qui est en nous qui s'éveille, ou du moins le souvenir qu'on en a, l'enfant qui écoute les mots, qui l'emmène dans son imaginaire, qui lui permet peut-être de décoller de la réalité et avec de la chance de s'envoler vers une forme de liberté. Alors elle raconte des histoires depuis des années, Sophie Bizet, à sa sauce et avec ses tripes. Et vous pourrez la voir et l'écouter jeudi 7 juin à la librairie La Balançoire de Cré. Elle va nous conter une histoire qui s'appelle Feu la vie, un spectacle forgé au gré de son imagination à elle, mais aussi constitué d'histoires glanées, des histoires réelles ou rêvées. Et j'ai l'honneur de l'accueillir dans le studio de Radio Saint-Fé aujourd'hui, Sophie Bizet, qui est donc conteuse. Bonjour Sophie.
Bonjour Héloïse.
Alors les auditeurs te connaissent peut-être, peut-être qu'ils reconnaissent ta voix, ton nom peut-être. Tu animes tous les mois, je crois que c'est
le quatrième mardi du mois.
Quatrième mardi du mois à 11h, une émission qui s'appelle Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?
Absolument.
Dans laquelle tu racontes.
Je raconte des histoires, oui. Pour changer.
Tu racontes des histoires, mais tu n'as pas raconté Feu la vie.
Non.
Je pense, puisque Feu la vie, tu vas la jouer pour la troisième fois, donc à la Balançoire le 7 juin à 18h à Cré. Et Feu la vie, d'après ce que tu m'as dit, puisque c'est un spectacle que je ne connais pas, c'est un spectacle qui parle de la mort.
Et de la vie.
Et de la vie.
C'est-à-dire, ça parle en fait du passage de la vie à la mort. Est-ce que ce passage est réversible ? Est-ce qu'on peut être à la fois vivant et mort ? Voilà, ce sont toutes ces questions-là qui sont à l'origine de Feu la vie.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée précisément à cette thématique et que tu as eu envie carrément d'en écrire un spectacle ?
Ah bah, disons que la mort, c'est une longue histoire, je crois, pour tous les vivants. Tout le monde, à un moment ou à un autre, se pose la question du passage de la vie à la mort. Bon, moi, j'ai eu des expériences aussi de deuil, un peu difficiles à vivre. Et j'ai fait une formation sur la littérature orale dans un endroit magnifique qui s'appelle le Centre Méditerranéen de Littérature Orale à Alès. Et à la fin de cette formation, on devait faire un mémoire sur un sujet en lien avec la littérature orale. Moi, j'avais choisi comme sujet de mémoire les représentations de la mort dans la littérature orale. Donc ça, c'était entre 2010 et 2013. Et pour ce mémoire, on nous suggérait c'était animé par Marco Barret, une personne remarquable, et donc il nous suggérait de prendre un sujet mais qui soit aussi en lien avec l'actualité, avec maintenant, quoi, que ce soit pas uniquement sur les contes traditionnels. Et du coup, j'ai pris comme sujet, donc par rapport à la mort, je me posais déjà cette question, est-ce qu'on peut être à la fois vivant et mort ? Et j'ai cherché des gens qui avaient vécu des expériences de coma, puisque le coma, c'est un état où finalement, le corps et l'âme, l'esprit, on ne sait pas trop où il est, s'il est là ou pas, ou s'il est là un peu ou pas du tout. Donc ça n'a pas été évident au début de trouver des gens qui avaient vécu cette expérience, mais finalement ça s'est fait. Puis comme on savait que je travaillais là-dessus, il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais je connais quelqu'un », etc. Donc j'ai effectivement collecté des personnes qui avaient vécu cette expérience ou qui avaient des proches qui avaient vécu cette expérience. Et ensuite, donc, quand j'ai décidé de faire vraiment un spectacle à partir de ça, j'ai utilisé ce matériau. Et je remercie d'ailleurs beaucoup les personnes que j'ai collectées qui se sont confiés à moi avec une grande générosité et puis beaucoup de confiance. Et ensuite, j'ai pioché dans les contes, bien sûr, qui sont mon terreau de prédilection. Donc les contes, dans la mort dans les contes, il y a deux sortes. Il y a la mort, la mort réelle, et puis aussi la mort symbolique, qui est le passage, par exemple, à l'adolescence, le passage à l'adulte. On peut dire qu'on meurt à son enfance. Donc, on peut dire que la plupart des contes parlent de la mort, si on regarde tout cet angle-là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de contes qui sont des contes initiatiques, en fait. Voilà, donc ça, et puis des textes littéraires que j'ai adaptés plus ou moins librement. Et voilà. Et avec tout ça, j'ai fait une grande histoire qui se passe dans un hôpital planté entre la forêt et la plage. Donc ça va être le lieu de rencontre de toutes ces histoires. Et le personnage central qui va un peu faire le lien, c'est le personnage d'une jeune infirmière qui est stagiaire à l'hôpital. Et c'est par son regard un peu que les choses vont passer, en fait. Pour décrire brièvement ce qui se passe dans le spectacle.
Ouais, alors déjà, tu nous en as dit beaucoup. Moi, j'ai des questions à te poser concernant des choses que tu nous as dites là. La mort, c'est quelque chose de tabou, mais tu disais que j'ai cru comprendre que dans la littérature orale, on en parlait facilement. On la retrouvait facilement.
Oui, surtout cet aspect de mort symbolique.
Oui.
Voilà, qui est en fait un passage. Donc, il y a plein de moments où le héros ou l'héroïne va passer. Souvent, c'est un passage par l'eau. L'eau est une frontière, souvent, entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, le héros est lancé dans une quête et à un moment, il va passer par une rivière, un lac, etc. Il se retrouve, en fait, dans un autre monde. Où là, il va avoir des épreuves à remplir et à réussir. Et ensuite, à la fin, il va. Donc il y a un moment où il va être souvent en très grande difficulté. Donc il va avoir des aides, soit des objets magiques, soit des personnages qui vont lui apporter de l'aide pour qu'il réussisse sa quête, en fait. Et il va ressortir du coup transformé de ce voyage. Il va revenir dans son monde initial, mais il va revenir différent.
Mmh. Du coup, côté matériaux compte pour t'inspirer, pour parler de cette thématique du passage de la vie à la mort, ou de la mort à la vie, on ne sait pas finalement. T'as pas eu trop de difficultés?
Oh non, j'avais l'embarras du choix, en fait. oui, j'avais l'embarras du choix. Il y a un très grand conte qui est un peu au centre, même si finalement j'ai choisi de ne pas le raconter en entier, parce que c'est un conte qui est très très long. Si vraiment je le raconte avec tous les détails, il peut faire une demi-heure. Et là, au début, je le racontais en entier, effectivement. Et puis, pour qu'un spectacle soit réussi, souvent il faut sacrifier. Il y a des moments où il y a des choses qu'on aime beaucoup, mais on se rend compte qu'elles n'ont pas leur place à cet endroit-là. Ça n'empêche pas de les raconter ailleurs ou autrement, mais voilà, c'est un équilibre aussi assez fin. Et là, donc ce conte-là, j'ai choisi de plus le raconter en entier, mais c'est l'histoire d'un forgeron diabolique, quoi, qui a quelque chose à voir avec le diable et qui a un apprenti qui, lui, au contraire, est du côté du bien. Et à un moment, ils vont s'affronter, c'est sûr, pour... Donc lequel va l'emporter sur l'autre, on verra ça jeudi.
Donc tu as l'embarras du choix, si tu as eu l'embarras du choix du côté conte, mais tu as choisi aussi, tu l'as dit, d'aller collecter des histoires vécues,
oui,
auprès de personnes. Donc tu as choisi d'aller voir des personnes qui avaient vécu une expérience de coma ou des proches de ces personnes-là. Quel genre de questions tu leur as posées?
En fait, quand on fait une collecte comme ça, c'est réussi. En général, la personne, c'est un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire il faut la mettre un peu sur la voie du souvenir, mais ensuite, une fois qu'elle y est, en général, on a juste à la laisser parler et pratiquement rien à dire, ou très peu, quoi, juste pour lui montrer qu'on est là et qu'on l'écoute. Mais souvent, c'est des souvenirs, surtout sur des sujets comme ça, c'est des souvenirs qui sont très, très forts. Donc, il n'y a presque rien à faire.
Tu as vu beaucoup de personnes?
J'ai dû en voir, 7-8. Mais je n'ai pas utilisé tous les témoignages pour ce spectacle-là, en fait. Enfin, après, c'est difficile à dire, parce que des fois, c'est juste un petit détail qu'on va garder. Le fait d'avoir parlé, par exemple, avec une infirmière qui a travaillé en réa, tout ça, ça... Même si je n'ai pas gardé exactement ce qu'elle m'a dit, il n'empêche que ça m'a imprégné, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui restent dans ma tête. Du coup, c'est difficile de dire vraiment, oui, ça, c'est... J'ai pris ça à telle personne et ça à telle autre. Même si... Enfin, il y a certains récits, oui, mais il y a beaucoup de petites choses, en fait, qui se sont assemblées dans un personnage et qui venaient de plusieurs personnes que j'ai collectées. Tu vois, c'est clair ce que je dis?
Oui. Alors, du coup, des contes... Des récits de vie. Et puis également, tu disais, tu t'es inspiré de textes littéraires.
De textes tirés de la littérature. Alors, il y a surtout Il y a un extrait du... Enfin, un extrait, c'est très adapté, du livre de Maëlys de Kerangal, le fameux best-seller qui a eu tant de succès, qui a été adapté au cinéma,
Réparer les vivants,
qui est l'histoire d'une greffe de cœur. Donc, moi, dans ce livre-là, m'avait vraiment bouleversée quand je l'ai lu. Surtout la première partie, c'est-à-dire, c'est l'histoire de jeunes gens qui sont vraiment... Il y a une séance de surf, quoi. Ils sont en plein dans la jeunesse, dans la force de vie, dans tout ça. Et après, ils vont avoir un accident de voiture. Et donc, il y en a un qui se retrouve dans le coma. Et le livre décrit tout le processus de la greffe du cœur, c'est-à-dire comment ses parents déjà vont accepter. Et puis ensuite, ses organes vont être prélevés et donnés à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Donc moi, cet aspect-là, la deuxième partie du livre m'a moins touchée. Et je me suis inspirée d'une scène, en fait, du livre, qui est celle où les gars sont en train de surfer, et ensuite, donc, l'accident de voiture, et comment le médecin va annoncer aux parents l'histoire de la greffe, même si, moi, je rentre moins dans les détails qu'elle. Elle a vraiment fait un travail très, très précis pour savoir comment ça se passe concrètement. Elle s'est appuyée, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est appuyée vraiment sur une réalité très très détaillée, et alors que moi je suis dans quelque chose d'un peu différent en fait, tu vois. Mais cette scène, il y a des choses très belles dans ce livre, ouais, c'est sûr.
Ça veut dire que quand on est conteur et qu'on fabrique des histoires comme ça, on a toujours des antennes pour aller, quand on lit un livre ou quand on rencontre quelqu'un, on a toujours des antennes en se disant, tiens, peut-être ça pourrait
être. Oui, puis il y a des coups de cœur aussi, si tu veux, ce livre-là, moi vraiment, sur le moment quand je l'ai lu, je me suis dit, oh là là, je vais le raconter. Puis en fait, après, on commençait à travailler, parce que c'est un très très gros travail d'adapter quelque chose. Et en commençant, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tout le livre qui m'avait touché, c'était vraiment un passage très précis, quoi. Du coup, j'ai abandonné mon idée de le raconter en entier et j'ai gardé que d'adapter le passage qui me plaisait.
Et puis, tu t'es aussi inspiré d'autres ouvrages, notamment un album jeunesse dont tu m'as parlé.
Oui, alors ça aussi, c'est une très très belle histoire. Ça s'appelle Bonjour Madame la Mort. C'est une histoire qui a été écrite par Pascal Telade. Et c'est publié en album jeunesse. Donc, je lui ai écrit pour lui dire que j'adorais son livre et je lui ai demandé l'autorisation de le raconter. Et c'est vraiment quelqu'un de très gentil, très agréable. Il m'a tout de suite dit, mais oui, 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 allez-y. Et il a eu la curiosité de savoir qu'est-ce que j'en avais fait. Donc, je lui ai pas encore envoyé, j'ai une version enregistrée, il faut que je lui envoie, je n'ai pas encore envoyé. Il y a forcément des petites adaptations entre l'écrit et l'oral. C'est-à-dire, tu ne peux pas raconter exactement comme c'est écrit. Sinon, c'est autre chose, c'est de la lecture, mais c'est pas du... tu ne racontes pas. Et pour raconter, il faut que ça passe par tes mots à toi, et tes images à toi. Donc il y a forcément des choses qui changent. Il faut que l'auteur accepte ce changement, en fait.
Et Pascal Telade l'a accepté,
oui,
volontiers.
Oui, accepté vraiment sans aucun problème.
Et puis pour terminer sur ces textes littéraires, tu m'as parlé aussi d'un troisième texte de Maurice Pons.
Oui, alors là, je n'ai pas contacté l'auteur. Ça, c'est extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Tendre Frayeur. Donc là, j'ai beaucoup modifié parce que c'était l'idée qui m'intéressait. Ce sont des malades qui sont dans une chambre, les lits sont séparés par des rideaux et il y a une seule fenêtre. Donc il n'y en a qu'un seul qui peut regarder par la fenêtre. Et j'ai tiré sur le pouvoir des mots, quoi. C'est-à-dire comment le fait de raconter va sauver la vie à la fois de celui qui raconte et de celui qui écoute. Et la nouvelle, je ne dis pas tout à fait ça, mais bon.
Oui, tu t'en es inspirée.
Je m'en suis inspirée, voilà.
Je te propose, Sophie, qu'on fasse une pause musicale. On va écouter un morceau de Reverend Beatman and the New Wave. Et le morceau s'appelle « Then We All Gonna Die ». Et on se retrouve juste après.
Merci, d'accord.
I see the river floating upside down. When I see the forests burning up in flames. When I see the streets covering up with blood. Then we flowers laying on my grave, when I see the sky turn from blue to black, then we all gonna die.
Chères auditrices et auditeurs, vous êtes toujours sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé, le 94.2, c'est le Zoom de la rédaction. Et pour ce Zoom, eh bien, c'est Sophie Bizet qui est dans le studio de Radio Saint-Fé. Je le disais en début d'interview, Sophie, que vous connaissez peut-être via l'émission Mais qu'est-ce qu'elle raconte, tous les quatrièmes mardis du mois à 11h sur Radio Saint-Fé. En direct d'ailleurs, avec Pierre à la technique. Alors, en ce moment, Sophie, très bientôt, tu proposes un spectacle à la librairie La Balançoire. C'est le jeudi 7 juin à 18h. Il s'appelle Feu la vie, un spectacle à la fois drôle et sombre, tu m'as dit, sur le passage entre la vie et la mort. Et dans ce spectacle, tu mélanges des contes, tu mélanges des contes avec des récits de vie, mais aussi avec des textes littéraires, ou en tout cas des extraits de textes, ou des idées que tu as pu piocher dans des textes littéraires. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer, de nous raconter le processus, comment ça s'est passé pour toi, parce que je crois que c'est la première fois que tu fais un tel mélange, pour justement associer, entrecroiser ces histoires. Comment il s'est
fait, j'ai fait des spectacles de contes, de récits de vie, c'est la première fois que je mélange tout ça. En fait, c'est parce que je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de mélanger ça. De toute façon, il y a du conscient et du pas conscient quand on fait une création. En tout cas, ça a été très difficile parce que les contes sont hors temps, hors lieu, le fameux « il était une fois ». Alors que les récits de vie sont ancrés justement dans un moment précis, un lieu précis. Et la difficulté, ça a été de trouver un espace et un temps qui soient communs.
Parce que je le redis, tu l'as dit tout à l'heure, il s'agit d'une histoire.
C'est une grande histoire, je commence et 1h10 après, je termine et voilà, tout est lié, quoi. tout est lié, c'est une seule histoire. Et donc ce lien s'est fait quand j'ai trouvé l'hôpital. Donc c'est tout se passe dans un hôpital qui est comme un grand navire échoué entre la plage et la forêt. Et c'est un lieu qui est à la fois réel, puisque les hôpitaux font bien partie de la réalité, mais en même temps qui est un peu magique, dans la mesure où il est planté entre la plage et la forêt, dans un univers qui est plutôt onirique, en fait.
Voilà. Donc il a fallu que tu inventes ce lieu.
Voilà, il a fallu que j'invente ce lieu, et après ça s'est fait tout seul, je dirais. Bon, j'ai été aidée, hein, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Jihad Darwish, qui est un de nos grands, grands conteurs, et qui est un formateur génial, et aussi un grand ami pour moi. Et il m'a vraiment... à un moment, je vais y abandonner parce que j'arrivais pas à trouver cette... Comment quoi faire avec tout ça, quoi. Et puis, des fois, il suffit de pas grand-chose, quoi. Un petit... Quelques paroles... Parce que c'est quand même moi qui devais trouver la solution. Personne ne pouvait la trouver à ma place, mais il a su me mettre sur la voie suffisamment pour que tout d'un coup le voile se déchire et j'ai la solution qui se présente, en fait.
Parce que ce spectacle, tu y travailles depuis déjà pas mal d'années. Je crois que tu as commencé en 2014.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire ma collecte, j'avais fait avant. Ma collecte, j'ai commencé en 2012, je crois. Mais le spectacle lui-même, ouais, on peut dire que ça a pris 4 ans.
4 ans donc pour...
En faisant d'autres choses à côté, pas en travaillant que là-dessus, quoi.
Oui, mais pour trouver le fil rouge entre tout ça, pour que tous les personnages se...
Oui, et puis il y a aussi des choses qu'on abandonne, c'est-à-dire j'avais beaucoup de matière, il y avait beaucoup de contes qui me plaisaient. Dans les récits de vie, j'avais aussi pas mal de choses intéressantes. Dans les textes littéraires, il y en a qui me plaisaient aussi. Et après, il faut faire un choix et sacrifier des choses qui vous plaisent, mais parce qu'elles n'ont pas leur place dans ce spectacle-là, et puis c'est tout.
De la frustration quand même, un peu.
Toujours un peu, oui. Toujours un peu, mais enfin, on a toujours l'espoir de le mettre ailleurs, ce qu'on n'a pas mis dans un spectacle. Parce que ce n'est pas terminé, je pense que j'en ferai d'autres. Donc, ils auront peut-être leur place dans un autre, ou pas. On verra.
Tout à l'heure, tu disais que le conte pouvait sauver la vie à celui qui écoutait les histoires, mais aussi à celui qui racontait.
Ah oui, absolument. Moi, je crois au pouvoir des mots et de la parole. Bon, de toute façon, le pouvoir de la parole, c'est vrai que... Il y a des gens, par exemple, qui vont chez les psychanalystes. Je crois que c'est surtout pour parler eux. Je crois que c'est surtout eux qui parlent. Non, c'est pas le psychanalyste qui parle en général.
D'après ce qu'on entend
dire. D'après ce qu'on entend dire, j'ai jamais fait l'expérience, mais bon. Donc c'est bien que le fait de parler déjà entraîne une libération quelque part. Et puis raconter une histoire à quelqu'un, c'est quand même quelque chose de. Je pense que c'est quand même un des plus grands plaisirs de la vie, en fait. Le fait de raconter et que la parole soit entendue, écoutée.
Tu te souviens, je sais que ça fait longtemps que tu comptes, et peut-être tu ne sais pas depuis quand, mais est-ce que tu te souviens ce qui peut-être t'a donné envie d'en faire ton métier ?
Je crois que le compte, déjà, au début, quand je suis devenue conteuse, je disais, moi, dans ma famille, il n'y a pas de conteur, ce qui est vrai, il n'y a pas de conteur professionnel, mais par contre, après... J'ai pensé que c'était complètement faux parce que ma mère était une conteuse naturelle, c'est-à-dire que elle racontait dans l'autobus, les gens s'asseyaient toujours à côté. Elle habitait à Paris, les gens s'asseyaient à côté d'elle et lui racontaient leur vie. Ça lui arrivait très souvent. Puis elle racontait les livres qu'elle avait lus, les rencontres qu'elle avait faites, et c'était extrêmement vivant. Et puis elle racontait beaucoup d'histoires à ses petits-enfants. Et nous, quand on était petites, ma sœur et moi, bon, elle n'avait pas trop de temps, mais ensuite, elle a beaucoup, beaucoup raconté à ses petits-enfants, puis elle leur faisait jouer des pièces de théâtre, etc. Donc il y a eu cette influence-là, et puis mon grand-père, donc le père de ma mère, alors lui, quand on était petites, on passait une partie de l'été avec eux, avec mes grands-parents, et le soir, il venait dans notre chambre, et il nous racontait des histoires. Le héros, c'était un oncle qui s'appelait l'oncle Vernet. Alors, mon grand-père avait effectivement eu un oncle qui s'appelait Vernet, Je pense que son héros n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Il avait juste, lui avait emprunté son nom, c'est tout. Et bon, c'était un personnage assez étourdi, donc il lui arrivait toujours des aventures parce qu'il oubliait des choses dans le train ou voilà, des choses comme ça, en fait.
Tu penses que ça vient de l'enfance, ton envie de raconter ?
Oui, je pense que c'est très... Ben, ces choses-là, je les ai retrouvées, et curieusement... Après, c'est-à-dire que j'ai repensé beaucoup à mon grand-père et à ma mère. Pas au début où j'ai compté, mais après, je me suis rendu compte que même si je ne raconte pas les mêmes histoires, il y a cette graine, en fait, qui vient de l'enfance, sûrement. Oui. Après, je ne sais pas, il y a aussi, j'ai fait du théâtre à un moment, mais le conte, ça s'est emparé de moi à un moment et je ne pouvais pas faire autrement que de raconter. Et ça m'arrive encore de tomber sur des récits, soit des contes, soit d'autres choses, et je sens qu'il faut que je raconte cette histoire-là. Il n'y a pas le choix, en fait.
Qu'est-ce qui fait que justement... Qu'est-ce qui fait qu'il faut que tu racontes ? C'est quoi ?
C'est comme dans l'amour. Hein. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ? Voilà, les coups de cœur, hein, le coup de foudre, ça existe. Après, il y a différentes sortes de récits, parce qu'il y en a, c'est vraiment le coup de foudre. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, il faut y aller. Et puis, il y a d'autres choses qui vont être... où ça va être plus lent, mais dans l'amour aussi, je pense que... il y a, bon, par exemple, avec ses amis, on a des relations aussi. Il y a des gens avec qui on a des relations tout à fait différentes. Il y a différents degrés dans l'amour, je dirais. Il n'y a pas que le coup de foudre, en fait. Il y a différentes formes d'amour. C'est tout à fait comparable. Je crois qu'il y a vraiment les contes qui sont les chéris, les préférés, ceux qui resteront toujours. Puis après, il y a des choses qu'on raconte à un moment qui nous plaisent. Et qu'on oublie, et après je me dis, ah oui, tiens, je racontais ça, oui, comment ça se fait, je racontais ça. Bon, parce que voilà, on s'en est détaché, ou alors on a fait le chemin qu'on devait faire avec, et puis après, ils nous ont apporté ce qu'ils devaient nous apporter autour de nous, ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter, et puis on passe à autre chose.
Une comparaison intéressante entre le conte et l'amour de la part d'une conteuse. C'est joli, je trouve. Les auditeurs ne te voient pas dans le studio, mais tu faisais des gestes avec tes mains. Enfin, c'était joli.
Oui, mon mari me fait la technique donc, pour l'émission. Et alors, il rigole toujours parce qu'il dit que quand je raconte, même si je suis au micro, je ne peux pas m'empêcher de faire des gestes, en fait.
Et oui, mais parce ça s'entend quelque part.
Bah, oui, puis le public est là. Je crois que c'est... Quelque part, c'est comme si on racontait au grand public. C'est... Voilà, moi je les vois, même si, bon, je sais pas s'ils sont nombreux, mais enfin je les vois.
En tout cas, le public pourra venir te rencontrer en chair et en os et en conte le jeudi 7 juin à 18h, donc à la librairie La Balançoire de Cray, qui se situe 6 rue Général Berlier, pour ce spectacle dont on a parlé pendant cette interview, qui s'appelle Feu la vie, des récits forgés et contés par toi-même, Sophie Bizet, avec le coup de pouce de Jihad Darwish, dont tu as parlé tout à l'heure. C'est plutôt pour les ados et les adultes.
Oui, parce que c'est un spectacle qui est un peu long, puisque c'est 1h10, et le sujet aussi intéresse, je pense, plus les ados et les adultes que des enfants jeunes.
Donc c'est Feu la vie, jeudi 7 juin à 18h à la Balançoire à Cray. Merci beaucoup Sophie.
Merci Héloïse.
Et bon spectacle.
Merci.
Zoom. Zoom,
zoom.
Zoom.
Oh, Louis, ça y est.
Actualité.
Culture.
Éducation.
Santé.
Environnement.
Zoom. C'est l'interview de la rédaction.